temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité fut professeur à l'Université McGill avec une approche pour le moins originale qui lui permet d'avoir l'affection et le respect de ses étudiants et étudiantes. Mais sans qu'on lui dise pourquoi, en 2007, on le congédie. Fort à parier que ses méthodes non conventionnelles dérangent, lui qui cherche pourtant à stimuler les jeunes en provoquant la remise en question constante des idées acquises. Le monde est maintenant devenu sa salle de classe. Texan d'origine, il collabore à l'émission Debout VM animé par Michel Gailloux, où il s'attarde à nous faire comprendre la politique américaine. Un immense privilège d'accueillir aujourd'hui le professeur Norman Cornett. Bonjour à vous.
Bonjour, merci pour cette invitation, Monsieur Dubois.
Oui, je disais que vous aviez des méthodes d'enseignement non conventionnelles et que tout cela vous a amené un jour à vous retrouver un peu, j'exagère à peine, dans la rue. C'est pas évident.
Non, non. Mais j'aimais bien l'introduction, Monsieur Dubois. En effet, je mets en question des idées reçues. Or, quand on perçoit l'éducation supérieure, universitaire, comme on va en cercle vicieux, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, je me demande dans quelle mesure on apprend. Et ma raison d'être comme pédagogue, c'est d'apprendre non pas pour un quiz, non pas pour un examen, même pas pour une note ou un diplôme, mais j'enseigne pour la vie.
Vous connaissez sans aucun doute Albert Jacquard, le regretté Albert Jacquard, qui disait qu'au plan de l'éducation, on devrait justement abolir tout ce qui est notation, qu'en fait, on devrait voir l'école comme un lieu d'apprentissage par l'expérience et non par la codification de thèmes qui sont déjà depuis fort longtemps connus. Est-ce que vous partagez cette idée?
Oui, et je dirais dans un premier temps, il faut joindre l'utile à l'agréable, la théorie à la pratique, de sorte que cette connaissance, ce savoir qu'on a vécu, eh bien, c'est ça qui nous reste pour la vie. Aussi, j'aimerais ajouter, dans l'esprit de Voltaire, de l'âge des Lumières, donc 18e siècle, de la discussion jaillit la lumière. Or, je favorise dans les ateliers dialogiques que je présente depuis 32 ans, dans les rencontres dialogiques, dans les séminaires que je présente dans les universités, soit en Allemagne, soit en France, à travers le Canada, ainsi qu'au Québec et aux États-Unis, je favorise un véritable débat d'idées autour des questions d'actualité. Et j'estime que l'éducation ne se fait jamais à sens unique. Il faut toujours prendre en ligne de compte que quand le prof parle, eh bien, il y a ceux et celles qui écoutent. Comment donc favoriser un véritable échange entre les professeurs et les étudiants et étudiantes? Voici mon propos dans cette approche dialogique.
L'éducation est donc, je dirais, le cœur de votre action depuis de nombreuses années. Et vous êtes un passionné de toutes ces questions qui peuvent relier la connaissance, les sciences, les arts, ce qui compose finalement l'intérêt humain.
Oui. Oui, d'abord je pense à André Malraux avec cet essai fondamental publié en 1933, La condition humaine. Or, je suis toujours en quête de percevoir, d'apprécier, de mieux comprendre la condition humaine dans toutes ses facettes. Et je crois qu'il importe aussi de savoir qu'en tant que pédagogue, on peut apprendre autant de ceux et celles qu'on enseigne que des livres, que d'autres instruments. Et Donc, pour moi, il y a une autre chose qui me frappe énormément. Et je vous partage, Monsieur Dubois, en fait, on appelle ça en philo les premiers principes. Les premiers principes de ma philosophie dialogique de l'éducation. Que disait Socrate ? La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. Fin de citation. Or, c'est ce principe, ce premier principe de la réflexion. Je sais bien que dans l'éducation publique actuelle, il s'agit de lire, d'apprendre par cœur et de répéter lors de l'examen. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on réfléchit? Et sans la réflexion de la matière, de la question qu'on traite, donc on ne peut pas aller au tréfonds de la condition humaine. Aussi, j'insiste sur le fait que d'être éducateur, d'être pédagogue, ce n'est pas un emploi, Monsieur Dubois. Ce n'est pas une carrière non plus. Ce n'est pas encore moins un job. Être enseignant, c'est une vocation. Et après les parents, il n'y a personne qui a autant d'impact sur la vie des enfants, des ados et des adultes que les enseignants. Donc, pour moi, c'est une mission sacrée.
Et ça va, cependant, ce que vous dites, à contrario souvent de ce que l'on entend du discours syndical quand il est question de vocation. On n'aime pas entendre ce mot. On pourra y revenir. Vous parlez de réflexion. C'est une journée probablement assez particulière pour bien réfléchir en ce Vendredi Saint. Nous aurons de la musique sacrée tout au cours de l'émission et nous avons pensé amorcer celle-ci avec un extrait, l'Agnus Dei de la messe solennelle en do mineur que chez 139 d'Amadeus Mozart, et c'est le chœur et l'orchestre symphonique de la radio de Leipzig qui interprètent le tout sous la direction de Herbert Kegel. En écoutant Mozart, on pense tout de suite à la beauté du monde. Cependant, quand on réfléchit sur l'état du monde, ce n'est pas nécessairement le mot « beauté » qui nous vient à l'esprit pour le moment.
Oui, et encore moins le sacrifice. Le titre de ce qu'on vient d'entendre, « Agnus Dei », ça veut dire « l'agneau de Dieu ». Il y a là le sacrifice. Et quand je disais tout à l'heure que pour moi, être pédagogue, être éducateur, c'est sacré, c'est parce que ça implique le sacrifice. Et je crois qu'il nous importe d'avoir ce sens du sacré et dans la condition humaine en général et dans l'éducation en particulier. Ce que je veux communiquer quand j'enseigne, c'est l'espoir. Et ce n'est pas toujours facile, Monsieur Dubois, quand on regarde les statistiques, quand on écoute les nouvelles le soir. Mais je dis toujours à mes étudiants et étudiantes, on peut lire de façon passive les nouvelles. On peut écrire de façon active les nouvelles. Et on peut faire les nouvelles de façon proactive. Or, si on veut que ça change dans ce monde, il faut que ce changement commence avec moi. Et voilà pourquoi, Monsieur Dubois, pendant 15 ans, j'enseignais dans une institution et je ne me fais pas d'illusions, Monsieur Dubois. C'est pas moi qui va changer toute une institution. Par contre, j'ai le devoir moral et éthique. Je suis responsable, redevable à ceux et celles qui sont assis devant moi de faire en sorte que le monde s'améliore.
Mais en dépit de tout ce que vous dites, ne trouvez-vous pas que les milieux universitaires, particulièrement, sont parfois très conservateurs et d'arriver avec des propositions comme celles que vous mentionnez, c'est un peu révolutionnaire? Et ça amène parfois ce dont vous avez été vous-même victime, le congédiement ou l'exclusion parce que vos méthodes, ce sont des méthodes qui sont non conventionnelles et qui amènent peut-être davantage les étudiants à remettre en question des choses qui sont déjà établies depuis fort longtemps.
Mais d'abord, je tiens à souligner, Monsieur Dubois, dans aucun cas est-ce que je m'identifie comme victime. Je suis, comme j'enseigne à mes étudiants et étudiantes, je suis proactif. J'assume mes choix parce qu'il faut que je vive avec ma conscience en tant qu'éducateur, en tant que pédagogue. Est-ce que j'ai fait tout ce que je peux faire pour améliorer l'ambiance pédagogique dans la salle de classe universitaire. Donc, moi j'ai fait le doctorat en sciences des religions, et je ne vous cache pas, Monsieur Dubois, que mes modèles, les paradigmes pédagogiques pour moi sont d'abord Mahatma Gandhi, qui a mis sa vie en jeu et qui a payé pour, le docteur Martin Luther King Jr., chef des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, qui lui aussi a mis sa vie. C'est pour cela que je souligne le sacrifice. Dans quelle mesure peut-on récolter des résultats qui durent? Moi, je cherche la longue durée, comme dirait l'historien français Fernand Braudel. Je vise rien de moins que la longue durée. Je ne veux pas enseigner que pour une heure. Je veux que mon enseignement laisse une empreinte.
Alors, on va écouter, si vous voulez bien, histoire de s'imprégner, pour reprendre vos termes, vous parlez d'empreinte. Imprégnons-nous de toutes ces réflexions avec le choix d'entendre le chœur orthodoxe de l'Académie de Moscou. Ça a été enregistré au monastère de Sergiev Posad. Sergiev Posad s'est situé à 70 kilomètres de Moscou. C'est une ville qui est surtout connue pour son monastère orthodoxe, le Lord de la Trinité Saint-Serge et la cathédrale de la Trinité. Un lord dans l'Orient chrétien, c'est un hameau religieux habité par des moines isolés qui se réunissaient une fois par semaine pour l'office et les repas. Aujourd'hui, on réserve cette appellation pour les grands monastères orthodoxes. Alors, on considère le monastère de Sergiev Posad comme le cœur de l'orthodoxie russe, car il a été fondé au 14e siècle par Saint-Serge de Radonège, saint patron de la Russie. Au 15e siècle, l'endroit acquiert véritablement son statut de lord. Puis, au 16e siècle, Ivan le Terrible dote d'un ensemble grandiose de bâtiments et d'églises. Enregistré en ces lieux, voici le chœur orthodoxe de l'Académie de Moscou, interprété « Maintenant, il est crucifié ». Ces voix basses que l'on entend font surgir en nous un sentiment d'élévation. Partagez-vous ce point de vue?
L'ascension. Oui. Je crois que c'est la raison d'être des arts, n'est-ce pas? De rejoindre toute cette dimension spirituelle. Et je me fais un devoir, Monsieur Dubois, de collaborer avec les spécialistes et des experts de toute discipline confondue et de toute croyance ou aucune croyance. Parce que par les arts, enfin, j'estime que les arts constituent autant de quêtes spirituelles pour passer au-delà du monde matériel et cette transcendance de l'esthétique, de rejoindre ce qui est au tréfonds de la condition humaine.
Et c'est pour cela que nous disions tantôt que science, connaissance, élévation de l'âme, tout le domaine des arts, tout ça ne fait qu'un seul amalgame qui compose cette condition humaine. Vous vous intéressez beaucoup, d'ailleurs, à toute cette art pictural, les œuvres de peinture viennent vous parler et vous apprenez aussi aux gens à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont face à une œuvre d'art.
Et là, vous soulignez quelque chose qui est la plaque tournante de ma philosophie dialogique de l'éducation. C'est d'abord la dimension affective, autrement dit, le subjectif. Et c'est tellement vrai dans mon approche dialogique, parce que je me suis rendu compte qu'à l'université, au nom du savoir, au nom de la vérité, au nom de l'objectivité, au nom des données pures et dures, on a évacué toute la dimension affective, alors que c'est justement ce qui nous motive. Et quand on ressent le savoir, eh bien, cela nous reste collé au cœur.
Terminons cette première partie. Vous savez probablement qu'au XVIIe siècle, pendant la période du carême, il était interdit d'offrir des spectacles d'opéra. Et pour permettre d'utiliser les chanteurs et musiciens des ballets royaux, on faisait en sorte de créer des œuvres religieuses. Et c'est ainsi que sont nés ce genre musical qu'on a appelé les leçons de ténèbres. Il y a eu plusieurs compositeurs qui ont été très versé dans ce mode de composition. On pense particulièrement à François Couperin. Alors, on va entendre le motet numéro 1 de François Couperin qui s'intitule « Audite omnes et expavescite », ce qui veut dire « Entendez tous et tremblez ». Et voilà, ça mettra un terme à cette première partie. On se retrouve tout de suite après.